France Culture, les matins d'été, Lucas Manger.
8h35 sur France Culture, on va parler de Jane Austen. Jane Austen avec Voulant en Folio, bonjour.
Bonjour.
L'écrivaine britannique est décédée il y a tout juste 200 ans, à l'âge de 41 ans. On sait finalement assez peu de choses d'elle, on va en parler, si ce n'est qu'elle a laissé quand même 6 romans, et quels romans? Des romans majeurs qui restent dans l'histoire de la littérature. Et ce qui est tout aussi rare, c'est qu'ils ont tous été adaptés, soit au cinéma, soit à la télévision. Alors, vous êtes spécialiste de littérature anglaise, spécialiste du romantisme anglais. Vous avez fait une thèse sur qui s'appelle, titre magnifique, des paysages impossibles, nature, forme et historicité dans le premier romantisme anglais. Vous enseignez à la Sorbonne. Est-ce qu'aujourd'hui, 200 ans plus tard, Jane Austen est toujours aussi populaire chez les étudiants?
Alors, chez les étudiants, elle est assez populaire, je dirais. Il n'est pas rare quand on voit un livre sur le coin de table d'un étudiant ou d'une étudiante, que ce soit un roman de Jane Austen. Je suis pas sûr cependant qu'elle soit tout à fait aussi populaire parmi les étudiants que parmi une certaine frange assez importante du public moyen cultivé qui assure l'essentiel du succès des adaptations dont vous avez parlé chaque année.
Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi populaire dans ce milieu dont que vous évoquez?
Écoutez, c'est un des grands mystères de l'histoire culturelle, un mystère qu'on peut assez aisément expliquer, mais jusqu'à un certain point seulement. Il y a d'abord le fait que les romans de Jane Austen possèdent cette espèce de paisible perfection formelle qui leur a valu une bonne part de leur estime dès le 19e siècle. Et puis, il y a aussi le fait que ces romans aujourd'hui se prêtent admirablement à ce qu'on appelle en anglais la heritage industry, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler l'industrie patrimoniale, ce qui fait que ces romans constituent cette espèce de parc à thème plein de robes en pierre, de rituels du thé, d'architecture néoclassique et de jolis jardins à l'anglaise, dans lesquels beaucoup de lecteurs et de spectateurs aiment à déambuler aujourd'hui. Voilà, ce qui peut, aussi s'accompagner de certaines ironies, mais bon.
Ouais,
une des principales réponses, disons. Et j'ai envie de dire aussi qu'il y a quelque chose de paradoxal dans l'affection qu'on porte à Jane Austen aujourd'hui, qui est que d'un côté, justement, on aime à, comme je le disais, déambuler dans ce parc à l'anglaise, miraculeusement conservé, ordonné, admirable, harmonieux et charmant. Et d'un autre côté, on a quand même des récits, des intrigues centrées sur des personnages féminins, souvent discrets, mais pas toujours, qui peuvent aussi être volontaires, spirituelles, quelques-unes sont un peu frondeuses même, et qui sont confrontées, disons, à des dilemmes très concrets, à des dilemmes sociaux, matériels, économiques, très concrets, qui sont confrontés aussi, à la condition subalterne, qui est celle de la femme dans l'Angleterre de cette époque-là, de sorte que je pense, c'est mon opinion personnelle, que beaucoup de lecteurs et beaucoup de spectateurs aiment à la fois, si vous voulez, le charme du passé, l'ordre esthétique du passé, et des personnages modérément rebelles auxquels ils peuvent aussi aimer s'identifier.
Vous dites frondeuse, mais est-ce qu'on peut pas dire féministe déjà ?
Alors, c'est une très vaste question. Oui, effectivement, il y a une tradition critique qui souligne ce qu'il peut y avoir d'émancipateur dans l'écriture et les personnages et les intrigues de Jane Austen. Comme il y a aussi toute une tradition critique qui voit en elle plutôt une espèce de moraliste assez conservatrice, finalement. Et je pense qu'il est très difficile de trancher de manière absolument définitive entre ces deux aspects de l'œuvre, et ça fait partie de ses ambiguïtés, et j'ai aussi envie de dire de sa richesse.
Oui. De sa richesse et de son mystère. Revenons un peu à elle. Donc, elle est morte en 1817, il y a pile 200 ans. Dans quel monde vit Jane Austen? C'est une fille de pasteur qui ne se marie pas, c'est ça, mais qui va raconter des histoires d'amour dans 6 romans.
Alors,
c'est quoi son univers?
C'est une fille de pasteur, effectivement, et quand on s'intéresse un petit peu à l'entourage familial d'Austen, on touche aussi un peu ces paradoxes dont je parlais à l'instant, dans le sens où son père est un pasteur anglican. L'idéologie familiale, c'est un taurisme bon teint, c'est une idéologie qu'on peut qualifier, disons, de paternaliste aujourd'hui, avec les mauvais et aussi les moins mauvais côtés que ça peut supposer. Mais il y a une singularité qui est que le révérend Austen est singulièrement libéral quand il s'agit de l'éducation des filles, c'est-à-dire que non seulement il les laisse lire, mais il les laisse même lire des romans. Hein.
Ce qui n'est pas, pas de soi. Oui, ce qui n'est pas de soi pour un pasteur à la fin du XVIIIe.
Absolument. Des romans, et même des romans gothiques, même de mauvais romans, etc., il y a une sorte de confiance, en fait, hein, qui est accordée à l'intelligence, au bon sens de la jeune fille. Hein. Donc là, il y a un aspect un petit peu paradoxal. Ensuite, concernant les histoires d'amour...
Mais donc elle lit tout. Elle lit tout ce qui
lui tombe dessus. Oui. Des sermons, des livres d'histoire et des romans. Voilà. Des poèmes.
Ça va nourrir elle va forger là son envie d'être écrivain.
Oui, très très tôt en fait. Hein, il y a une vocation d'écriture qui se dessine chez elle dès la première adolescence, hein, même déjà à la fin de l'enfance, hein, aux alentours de 10-12 ans, elle commence à écrire. Et ce qu'elle écrit, ce sont des pastiches, essentiellement des parodies et des pastiches qui sont lues. Au sein du cercle familial, en fait, hein, ça fait un petit peu Image d'Épinal, au coin du feu, dans le presbytère, etc. Mais c'est un peu ça, si vous voulez. Hein. Son talent est plutôt encouragé que dissuadé. Hein, voilà. Et c'est un talent parodique, comique, hein, avec déjà beaucoup d'irrévérence vis-à-vis des conventions de divers genres. Donc on a cette matrice essentiellement burlesque, caustique aussi, hein, de l'écriture chez Jane Austen.
Et encore une fois, tolérée par une famille, ce qui n'est pas forcément évident à cette époque.
Absolument, oui, tout à fait. Concernant les histoires d'amour, on sait qu'elle en a eu quelques-unes, dont aucune n'a abouti et qui sont difficiles à hiérarchiser, hein, en fait, en termes d'importance, d'engagement. Étant donné les énormes lacunes de sa correspondance, puisque sa sœur, qui était aussi sa confidente et son amie intime, sa meilleure amie, sa sœur, après sa mort, a brûlé une partie de la correspondance qu'elle estimait ne regarder en rien la postérité. Donc, il est absolument impossible de savoir si elle a eu le cœur brisé, jusqu'à quel point, etc. Ça, c'est des choses dont on ne sait rien. Voilà. Il est certain qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une désillusion et il y a eu un retranchement, en fait, à un moment dans la vie intérieure, dans l'écriture, ça c'est certain, voilà. Mais il est difficile d'en dire plus sans...
Elle n'avait pas d'enfant, mais était très proche des filles de sa sœur, à qui elle prodiguait beaucoup de conseils.
J'ai envie de dire peut-être inversement, oui, c'était surtout les enfants en fait qui étaient proches d'elle et qui requérait ses conseils, et ses conseils aussi d'écriture, en fait, les écrits de la tante Jane, qui ont été publiés très tardivement. Hein. Il faut savoir que bon, il y a trois premiers romans de la maturité, hein, L'Abbaye de Northanger, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, qui ont été rédigés sous une première forme dès la fin des années 1790, donc avant que Jane Austen et 25 ans, hein, et qui ne sont publiés qu'une quinzaine d'années après. Hein. Donc il y avait ces romans qui existaient à l'état de manuscrits, et quand, disons, la première génération des neveux de Jane Austen grandit, on ressort des placards ces écrits-là, hein, qui amusent beaucoup.
Mais elle est encore en vie à ce moment-là ?
Oui, bien sûr.
Et elle accepte donc que ce soit, l'état d'un manuscrit devient donc un vrai livre.
Elle les reprend en fait avant publication, elle les remanie, et ça c'est un des autres mystères de son œuvre. Il est absolument impossible d'avoir une idée précise des premiers états des romans en question, en fait. Donc ces enfants-là, oui, aimaient les histoires de la tante Jane, et plusieurs d'entre eux vont s'essayer à l'écriture eux-mêmes, en suivant l'exemple de leur tante, sans d'ailleurs que c'est laissé des traces majeures dans l'histoire de la littérature, mais c'est une autre affaire.
On va écouter un petit extrait, c'est une discussion, c'est lu par Guillaume Gallienne, chez nos cousins de France Inter. Ça c'est d'un extrait de Persuasion, au chapitre 23, c'est une discussion, justement une discussion sur les femmes et le caractère des femmes.
Si j'avais la mémoire de Benwick, je vous débiterais 50 citations à l'instant en faveur de mon argument. Et je ne crois avoir jamais ouvert de livre qui n'eût quelque chose à dire sur l'inconstance des femmes. Les chansons et les proverbes ne parlent que de l'humeur volage des femmes. Mais peut-être allez-vous me dire qu'ils sont tous écrits par des hommes. Peut-être, en effet. Oui. Oui, s'il vous plaît, pas de références et des exemples tirés de livres. Les hommes, en racontant leurs histoires, ont eu sur nous tous les avantages. Ils ont eu une éducation tellement supérieure à la nôtre. Ce sont eux qui ont la plume en main. Je ne reconnais pas au livre la propriété de prouver quoi que ce soit.
Elle a quand même déjà très tôt l'envie d'écrire sur la place des femmes, et avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, mais en même temps, le fond est extrêmement sérieux de ce qu'elle dit. Quand vous parlez, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, sur, il y a un côté frondeur chez Jane Austen, quand même, qui est de remettre la femme au centre de ses romans et de lui assurer une vraie place.
Oui, oui, dans une certaine mesure, c'est certain. Il y a quand même peut-être un bémol à apporter à une telle vue. Vous avez un courant de lecture critique féministe. Vous avez certaines critiques qui font du roman austénien le terme d'une évolution, si vous voulez, en vertu de laquelle les romancières, les femmes, hein, se voient accorder une place de plein droit dans le monde littéraire, hein, dans l'écriture et en particulier l'écriture romanesque. Et ça se fait en même temps au prix de certains renoncements, d'une certaine spécialisation. C'est-à-dire que la femme, oui, elle a parlé de la femme, mais parce qu'elle n'a pas le droit de parler de tant d'autres choses. Et elle va parler de la famille, en fait. Hein. Donc elle va parler de la femme dans la mesure où elle parle de la sphère domestique. Hein. Si vous prenez les romancières de la génération d'avant Jane Austen, vous voyez que elles ont tendance à donner leur avis sur un peu plus de choses, en fait, que ce n'est le cas chez Austen. Chez Austen, il y a vraiment un resserrement de la focale, hein, sur l'univers domestique. C'est un choix esthétique aussi, et c'est aussi ce qui permet à ces romans d'avoir l'attrait, la concision, hein, l'harmonie formelle qui fait leur charme. Hein. Et c'est au sein de ce resserrement qu'on va avoir des effets d'ironie comme ceux qu'on perçoit, hein, dans la citation, oui, qu'on vient d'entendre. Donc il y a une forme d'ambiguïté aussi, hein. Et cette citation qu'on vient d'entendre, elle me remet en mémoire aussi une lettre que Jane Austen a écrite au moment, c'est vraiment vers la fin de sa vie, hein, au moment où elle commence à rencontrer un certain succès, un succès d'estime, on va dire. Elle est approchée par le bibliothécaire de Son Altesse Royale, le prince régent, qui lui demande de faire une œuvre qui l'encourage, voudrait l'encourager à faire une œuvre un peu plus ambitieuse, un peu plus officielle, une œuvre où elle s'arrangerait aussi pour chanter les louanges du prince régent, lequel n'était pas tenu en très haute estime par l'opinion publique à cette époque-là, surtout pas par Jane Austen elle-même d'ailleurs.
Faire un peu de propagande, voilà, royale, quoi.
Et bien sûr, elle n'en a aucune envie, et elle se débrouille pour esquiver cette charge-là en disant qu'elle est la femme la moins informée et la plus ignorante qui ait jamais osé se faire auteur, en fait. Voilà.
Ça l'arrange bien d'être dans cette situation.
Absolument. Voilà. Tout à fait. Oui.
Et de rester dans la description d'un univers provincial, bourgeois, assez étriqué, mais dans lequel elle trouve, elle, beaucoup aussi d'humour et de matériaux
infinis. Oui.
Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un décalage, enfin je vous pose la question, entre son image, alors vous en parliez tout à l'heure, qui a été beaucoup véhiculée par des séries, par des adaptations, parfois ratées, le côté un peu fleur bleue des histoires de Jane Austen, alors que dans le fond, elle a beaucoup d'ironie sur ce qu'elle décrit de la bourgeoisie britannique, de province, à la fin du 18e et au début du 19e. C'est pas très fleur bleue ce qu'elle écrit. Et pourtant, il est resté comme une espèce de petite image un petit peu tarte.
Bah, c'est-à-dire que ça, c'est encouragé par un des aspects, enfin par la mécanique de l'adaptation, qui est que vous prenez un acteur sexy, vous le mettez en costume du 19e siècle, vous agencez bien la mise en scène, les angles de prise de vue, etc. Et bon, forcément, ça va générer un certain attrait. Hein,
Je vous fais écouter un exemple, parce que c'est intéressant. On va écouter une bande-annonce d'un des derniers films adaptés de Jane Austen, et rien qu'à écouter, vous allez comprendre ce que je veux dire.
Netherfield Park est enfin loué. Vous n'avez pas envie de savoir qui s'y installe?
Je suis déjà allé voir.
Est-il aimable?
Est-il joli garçon?
Célibataire?
Absolument.
Ah, il est là, il est à la porte!
Oh mon Dieu, essayez d'avoir toute une attitude naturelle.
Monsieur Collins, pour vous servir.
Les sœurs Bennett cherchaient un mari.
Seul un amour profond pourrait me convaincre de me marier.
Bon, je vous l'accorde, Laurent Folliot, c'est un exemple peut-être un petit peu extrême, mais de certaines adaptations qui sont faites de romans de Jane Austen, qui est quand même une des grandes grandes dames de la littérature britannique, qui a peut-être ouvert le romantisme anglais justement, et on se retrouve avec des adaptations comme ça où on a l'impression d'être dans un espèce de d'univers complètement voilà, je trouve pas vraiment le mot, j'allais dire encore une fois fleur bleue ou un peu tarte, mais il y a vraiment, c'est difficile à décrire tellement ça a l'air stupide, alors que elle est tout sauf ça.
Oui, certes. Alors bon, pour revenir un peu aux logiques de l'adaptation, ce qui prévaut, c'est effectivement, on va avoir un rendu de l'œuvre, de l'atmosphère, des tendances profondes, des grandes lignes, disons, de l'œuvre d'Austin, qui est à la fois compréhensible et qui emporte quand même une distorsion, c'est-à-dire que on va avoir effectivement la romance, l'intrigue principale, hein, avec tous les assaisonnements visuels que j'évoquais tout à l'heure, et puis on va avoir en contrepoint les ridicules de cette société de province, un peu surannée, empruntée, guindée, etc., etc. Et donc ça se prête bien à l'appropriation par un certain imaginaire d'aujourd'hui. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, en somme. Ce qui passe à la trappe dans la majorité des cas, c'est bien sûr la subtilité de l'écriture, du jeu des points de vue, de l'incertitude des jugements aussi, le tâtonnement perpétuel du jugement moral en fait dans l'œuvre d'Austen. Je vais prendre un exemple qui est peut-être le plus extrême, c'est celui d'Emma, hein, qui est souvent considéré canoniquement comme le plus accompli des chefs-d'œuvre de Jane Austen. Il y avait l'autre soir à la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne, une adaptation télévisée avec Kate Beckinsale qui date de 1996. Et cette adaptation était pour l'essentiel, m'a-t-il semblé, hein, d'une très grande platitude. Hein. Emma, c'est celui des romans de Jane Austen où il se passe pratiquement le moins de choses, c'est aussi le plus long. Hein. Donc l'expérience du roman consiste en cette immersion durable, hein, dans une atmosphère de petits riens, hein, de petits riens perpétuels, d'ennui presque, hein, ou carrément même, on peut le dire, d'insignifiance nombreuse et au fond significative parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Et l'intérêt du roman, c'est aussi justement hein, la pénétration, l'immersion dans ce médium-là, hein, dans lequel on s'aperçoit tout d'un coup, dans lequel on est tout surpris de s'apercevoir tout d'un coup que ces 60 pages de description d'ennui amènent à une scène qui est en réalité profondément dramatique, hein, au sens, à tous les sens du terme, d'une certaine façon. Alors comment est-ce que vous voulez rendre ça dans une adaptation de 1h40, hein, dans laquelle la plupart des personnages sont schématisés, même ceux qui sont déjà un peu schématiques dans le roman, et dans laquelle il est très difficile, voire impossible en fait, hein, de rendre la complexité des processus mentaux qui sont à l'œuvre, de rendre la complexité aussi des rapports intersubjectifs qui sont le sujet même du roman. Voilà.
Eh bien Laurent Folliot, merci beaucoup. Je pense que ça donne à beaucoup de nos auditeurs et à moi-même envie de lire ou de relire Jane Austen. Je rappelle que vous êtes spécialiste du romantisme anglais, maître de conférence à la Sorbonne à Paris 4. Merci beaucoup d'être venu parler du 200e anniversaire de la mort de Jane Austen.
Merci à vous.